Donc, nous sommes en Jean 8. Ce passage a une drôle de conversation entre Jésus et les pharisiens. Et parfois, les traductions, moins traductions, plus vivantes, ça rend justement la conversation plus vivante. En fait, c'est presque pas une conversation, c'est presque comme un argument, une dispute entre Jésus et les pharisiens. Et donc c'est pour ça que ça va très bien avec une version telle que français courante. Donc voilà. Quelques explications sont aussi nécessaires parce que dans certaines Bibles, en fait presque dans toutes les Bibles, vous voyez que des versets de chapitre, dernier verset de chapitre 7 jusqu'au 11e verset de chapitre 8 sont entre parenthèses. Ou bien, il y a d'autres versions où on met carrément l'histoire à la fin du chapitre. Alors, pourquoi? Parce que, il se trouve que ce passage, en fait, n'est pas dans les plus anciens manuscrits qu'ils ont découverts. Et il n'apparaît pas non plus dans les lettres des premiers pères de l'Église. Ça, c'est encore une autre preuve qu'ils ont utilisée pour choisir des différents livres canons. Parce que les premiers pères, comme ils n'avaient pas tous les autres livres et ni les épîtres, ils écrivaient des lettres et dans ces lettres, ils citaient tout ce qu'ils avaient en tant qu'évangile ou lettres de Paul ou ce qu'ils avaient et ils les échangeaient. Et c'est grâce à ça qu'on peut seulement avec ça, reconstruire tout le Nouveau Testament. Mais, bizarrement, dans ces lettres des premières pères des églises, on ne trouve pas cette histoire. Mais la question, c'est que pourquoi est-ce que on a dans la Bible? Et peut-être c'est même, ça faisait partie de la tradition orale, ou bien est-ce que c'est tout simplement un problème des intellectuels qui se sont posés à eux-mêmes dans les temps modernes pour mettre justement ou semer les doutes concernant l'autorité biblique. Moi, je me penche plutôt vers cette dernière option parce que chaque fois que les hommes hyper intelligents commencent à déchirer la Bible en me disant un tel passage n'appartient pas à la totalité ou un autre passage n'est pas tout à fait vrai alors que c'est un passage qui illustre si parfaitement la compassion et la divinité de Jésus-Christ, j'ai mes doutes. Je suis déjà soupçonneux de quelqu'un qui veut détourner les écrits. Donc, s'il n'y avait pas d'autre raison que pour ça, moi, j'adopte ces premières 12 versets comme si rien n'était, parce que je trouve qu'ils ont leur place si parfaitement entre des versets 52 de chapitre 7 et verset 12 de chapitre 8. Et si on efface même les parenthèses, je suis convaincu que ça ne ferait aucune différence, tellement ça coule parfaitement. Et les thèmes qui sont illustrés dans ces 11 versets sont repris. Et ils sont même amplifiés par le reste. Le contexte est très important. Ce contexte est en fait le lendemain après la fête des tabernacles. Donc, rappelons-nous ce qui s'est passé ce dernier grand jour des tabernacles quand Jésus se lève et il crie devant toute l'assemblée « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et des eaux vivantes jaillissent de son sein. Et encore plus, ça nous amène à ce merveilleux passage, un de mes favoris, où les pharisiens envoient des gardes, des lévites, pour arrêter Jésus, mais ces gardes, qui sont des lévites et qui ont des connaissances bibliques, ils sont tellement captés par l'enseignement véridique, puissant de Jésus-Christ, ils se rendent compte tout de suite que il n'est pas comme les autres. Et bien sûr, ils reviennent les mains vides parce qu'ils sont convaincus quelque part. Et donc, c'est le lendemain de tout ça où nous voyons verset 53. Ensuite, chacun s'en alla dans sa maison. Donc, c'est le retour à la normale. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, en fait, qui se trouve juste en face du temple. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il n'a pas passé la nuit ni à Jérusalem, ni à Béthanie, qui est juste à l'autre côté du mont des Oliviers. Donc, il était presque là. Et à Béthanie, c'est là où habitent Marthe et Marie et Lazare, ses bons amis. Mais il reste sur le mont des Olives. Peut-être il fait un peu de combine avec ses disciples. Peut-être il prie toute la nuit. On ne sait pas. Mais je suis convaincu que le Père ne voulait pas qu'il s'en aille trop loin pour qu'il soit au rendez-vous le matin, parce qu'il y avait un rendez-vous important qui va dévoiler la compassion du Seigneur pour que les grands et les sages du monde puissent disputer pour voir si c'est réellement dans la Bible. Non, le Seigneur voulait que Jésus soit au rendez-vous le matin, et c'est pour ça justement qu'il n'est pas allé trop loin, pour qu'il soit le matin tôt, comme il faut. Il s'assit pour enseigner. Et ce qui est important, c'est que, donc, il enseigne comme si rien n'était. C'était le lendemain, il s'assoit pour enseigner. Donc, ce que nous faisons ce soir, c'est assez biblique. Sauf que si nous voulons vraiment faire comme ils ont fait à l'époque, ça serait plutôt vous qui se lèvez. Et donc, je reste assis. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez. Mais en ce qui me concerne ce soir, c'est biblique. Verset 3. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu ? » Alors, bel piège, disons, ici. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je crois, construit par la sagesse de Satan, parce que c'est tellement bien fait. Le Seigneur ne peut rien faire. Pourquoi ? D'abord, ça vise tous ces grands discours qu'il a fait, qui ont tellement enragé ces pharisiens, ces grands discours d'amour, grands discours de compassion, grands discours de pardon. Alors, là, ils ont trouvé le moyen de le piéger où il ne peut pas. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Parce que, d'abord, la loi de Moïse exige que les gens, l'homme et la femme qui sont prises dans l'adultère, qu'ils soient mis à mort. La femme, justement, devant la porte de son père. Et donc tous les deux, ils subissent la punition de qui porte justement leur péché. Mais il y a un grand problème avec ceci. C'est qu'il est formellement interdit aux Juifs, à cette époque, d'exercer la peine de mort. C'est Rome, et Rome seul, qui peut exécuter un homme. Alors, très bien, Jésus, toi qui parles de la compassion et de l'amour et du pardon et tout, alors, quel bel piège, on est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas violer la loi de Moïse? Et d'ailleurs, de quel côté se situes-tu? Est-ce que tu es plutôt romaine? Ou bien est-ce que tu es côté de Moïse, si tu es réellement le Messie? Donc voilà tout ce qui est en jeu maintenant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il ose parler contre Rome? est-ce qu'il ose parler contre Moïse? Il y avait des témoins. Il ne fallait qu'un seul témoin en plus de l'accusateur. Et là, il y avait toute une troupe, une cohorte plutôt. Et ben, j'aime bien ce que Jésus fait. Verset 6. Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à crier avec le doigt sur le sol. Et comme il continuait à le questionner, on pourrait dire, il continuait à le matraquer avec leurs accusations, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à crier sur le sol. Et quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, le plus âgé d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors, ce qui est frappant, c'est que Jésus ne regarde même pas cette femme. Il ne lui adresse même pas la parole pendant tout ça. Mais il s'abaisse, il commence à crier. Ce qui est intéressant, c'est que nous savons, grâce au Talmud, qu'à cette époque, il y avait un grand problème d'adultère. Et c'était devenu tellement important ce problème qu'il fallait qu'ils prennent des mesures extraordinaires justement pour faire face à ce problème d'immoralité en Israël. Et comme c'était de l'actualité, ils ont trouvé leur proie parce qu'il est évident que cette femme pour eux n'était qu'un objet. Et Jésus ne leur n'adresse même pas la parole à cette femme. Ne regarde même pas. Mais il écrit. Et puis, comme ils insistent, alors il se lève. Il la regarde toujours pas, mais ses yeux, en fait, rencontrent les leurs. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est puissant ce qu'il dit. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Sans rien dire de plus, il commence à nouveau à écrire sur le sol. Qu'est-ce qu'il écrivait? Il est possible qu'il commençait comme il y avait un grand problème d'adultère, peut-être, comme il est Dieu, peut-être, eux aussi, pensant que personne ne voyait, peut-être ils commençaient à écrire ce qu'ils ont fait dans le secret. Ou bien, peut-être aussi, il écrit tout simplement la loi. Ce qui est évident, c'est que leur conscience les torture, les convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans leur cœur. Et donc, si il ne fait rien d'autre que écrire la loi, ça, plus le Saint-Esprit, est puissant pour fermer la bouche à ses accusateurs. Car ils sont tous, évidemment, coupables. Et d'ailleurs, il est impossible qu'une femme commette un adultère toute seule. Où est l'homme? Est-ce qu'il était parmi eux? Est-ce que c'était une partie de leur jeu? Eh bien, dans la loi, quand un homme accuse faussement un autre, la loi exige que cet homme reçoive la punition qu'il voulait que l'autre prenne. Si il y avait une sorte de fausse accusation, les anciens, ceux qui sont plus versés dans la loi, seront les premiers à se réaliser que la condamnation qu'ils voulaient pour elle doit forcément tomber sur leur tête. Un commentateur a dit, c'est les anciens qui se rendent compte avec leurs années du péché et de connaissances mondaines qu'ils étaient les plus loin de la perfection demandée par Dieu. Alors que les jeunes étaient trop naïfs, peut-être trop arrogants pour réaliser que ces lois s'appliquent à eux. Et puis, avec la puissance du Saint-Esprit, finalement, ils partent tous. Et c'est enfin, maintenant, que Jésus regarde cette femme. Après que tout le monde s'en va. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il adresse chaque personne individuellement. Seulement Dieu peut faire une chose pareille. Dans une foule, il prend le temps, ou bien par la puissance surnaturelle qui est en lui, il adresse à chacun là où ils sont, mais individuellement. Chaque pharisien qui voulait prendre une pierre, il lise peut-être la loi, il lit ce que Jésus dit, il ressent personnellement la conviction du Saint-Esprit, et chacun personnellement convaincu de ses péchés, tourne le dos et rentre chez eux, où ils se retirent au moins. Chacun personnellement jusqu'à ce que il n'y a que cette dame et Jésus. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne te condamne? Personne, maître, répondit-elle. Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pèche plus. » Alors, quand il dit « Je ne te condamne pas non plus », ça ne veut pas dire que moi aussi je suis coupable. Non, ce que nous avons ici, c'est que Jésus, dans sa perfection morale, il dit une chose qui a la même valeur de ce qu'il a dit au paralytique quand il a dit « Prends ton lit et marche ». Il a dit pour que, excuse-moi, quand il a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et puis, les pharisiens, ils ont opposé à cette parole. Il a dit « Mais qu'est-ce qu'il est de plus simple ?» pour que vous compreniez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. De dire, prends ton lit et marche, ou tes péchés sont pardonnés. Mais pour que vous compreniez, prends ton lit et marche. Et par ceci, nous comprenons que ce miracle physique était une preuve de ce qui se passait dans l'invisible, que Dieu pardonne les péchés. Et qu'il guérit le corps, mais surtout il guérit l'âme. Et donc, ici, quand il dit « Tu peux t'en aller, ne pêche plus », nous voyons la grâce du Seigneur qui pardonne cette femme. Et si il dit « Ne pêche plus », c'est parce qu'il lui donne aussi la puissance de ne plus le faire. Donc, il s'adresse à elle aussi personnellement, en lui disant la chose qu'il lui faut. Les autres, par la loi, voulaient l'écraser. Et la loi est juste, mais la loi tournait contre eux-mêmes, parce que eux, ils avaient des mauvaises intentions, eux, ils se retirent. Elle est déjà convaincue de son péché. Maintenant, elle lui parle en tant que maître, Seigneur. Certainement, elle tremble parce qu'elle sait et elle sait ce qu'elle mérite. Et là où on attend que la pénalité tombe, Jésus, qui va payer la pénalité pour elle, lui laisse libre. Alors, ça attire des foules, évidemment. Il ne peut pas avoir ça qui se passe dans le secret. On peut très bien imaginer, il y avait les pharisiens qui attrapent la femme, ils veulent le plus grand nombre de témoins possible. Les gens, ils sortent, ils veulent voir, alors, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, quelle surprise, quelle glorieuse surprise de voir Jésus qui renverse le piège sur ces hypocrites. Les gens aiment voir ça. Et ils sont tous là et Jésus s'adresse à de nouveau la parole à la foule. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Elle ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » C'est par ça que nous voyons que ça colle tellement bien. Ces gens-là, ils pensaient apporter la lumière, mais ils marchaient dans les ténèbres. Qui marchait sur elle dans les ténèbres. Jésus dit, non, 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 arrêtez de penser comme ça. Je suis la lumière, venez à moi. Alors, ce qui est fascinant, c'est que, en fait, pour la fête des tabernacles, donc, rappelons-nous, on est juste le lendemain. Pendant cette fête, il y avait une autre tradition qui renvoyait aussi à cette période de 40 ans dans le désert. Et c'était, chose bizarre, c'est pas une coïncidence, mais dans la cour des femmes dans le temple, ils allumaient des torches dans la nuit. Il y avait des danses et des chants et tout dans la cour des femmes. Et donc, Jésus dit, le lendemain après que tout ça est terminé, je suis la lumière du monde. Ces torches, cette lumière était à l'image du colon de feu par lequel l'Éternel dirigeait le peuple Israël dans le désert et dit, vous allez nulle part si vous ne marchez pas à la lumière que je vous donne. Ça s'accorde parfaitement avec ce que nous avons lu en chapitre 1, verset 9, par exemple, où nous lisons « Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. » Ça, c'est Jésus. Il est cette lumière qui entre dans le monde et qui éclaire tous les hommes qui viennent à lui. Alors, là, on attend qu'il dise plus. Parce que déjà, il a dit beaucoup. Et on veut qu'il dise plus. Et il va dire plus, mais pas pour maintenant. Parce que ces pharisiens, ils ont subi une grande défaite. Et quand on subit surtout une grande défaite intellectuelle, souvent les intellectuels perdent le bon sens et ils commencent à s'attaquer. Et à toute chose. Et voilà ce qui se passe. Ils disent, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage est sans valeur. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la manière des hommes, moi, je ne juge personne. Cependant, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable, parce que je ne suis pas toute seule pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes apportent le même témoignage, ce témoignage est valable. Je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Alors, ils disent, ce que tu dis, c'est pas valable. Mais c'est comme ils ont oublié tout ce qu'il a déjà dit. En fait, ce que nous avons n'est rien de plus de ce qu'il a déjà dit dans d'autres chapitres avec ces mêmes gens, dans les mêmes circonstances, dans le même temple. Et rappelons-nous de ce qu'il a dit en chapitre 6 quand il a donné les différents témoins. Témoin de Jean de Baptiste, témoin du Père, témoin des miracles, tous ces autres témoins. Et là, c'est comme exaspéré, il dit, mais comme vous ne comprenez même pas tout ça, bon, je vais le rendre simple pour vous, et je vous donne un témoin. Déjà, c'est tout ce qu'exige votre loi, je vous le donne un, le Père. Rappelez-vous de cette grande voix qui sortait des cieux quand j'étais baptisé. Rappelez-vous de tout ce qu'a dit les prophètes, la voix du Père. Eux, ils jugent avec un jugement humain. Parce que qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un homme, trentaine d'années, de Galilée, sans même pas rendre compte de tout ce qu'il fait autour. C'est pas vrai parce que ça tient pas en compte tout ce qui est, tout ce qui se passe réellement. Tous ses miracles, tout son enseignement, toute sa vie. Et aussi toutes les Écritures. Témoins, il y en a beaucoup de témoins, mais ils refusent d'écouter parce que leur orgueil, leur fierté a été blessée. Et maintenant, ils se battent, mais ils se battent sans réfléchir et sans justice. Mais Jésus, Il prend le temps quand même avec eux. Il répond à chacun de leurs questions. Verset 19, ils lui demandèrent, où est ton père? C'est comme ils n'écoutent rien du tout de ce qu'ils disent. Et puis, il dit le mot père, et puis ils disent, ah, mais où est ton père, justement? Au fait, où est ton père? Et Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père. Et Jésus prononçait ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple. À l'endroit où se trouvaient les troncs à l'offrande, personne ne l'arrêtait parce que son heure n'était pas encore venue. Donc il était dans le temple, la partie du temple où un étranger ne pouvait pas se permettre d'y aller. Il était là dans un endroit assez officiel et il enseignait comme les grands maîtres le faisaient. Mais personne ne l'arrêtait parce que dans la scène invisible, céleste, là, il y a ces anges qui le protègent. Il y a le Père qui dirige toutes choses. Ça montre à la fois qu'il est un homme, parce qu'il était en danger réel. Si c'était permis, il aurait tué dans une seconde. Mais comme il est Dieu, c'était pas son temps. Tout était bien ordonné. Et pour reprendre les paroles du grand missionnaire en Afrique, David Livingstone, nous sommes invincibles avant que Dieu décide de nous reprendre. C'était le cas avec Jésus. Invincible. Et il continuait sans peur, comme nous devons le faire aussi. Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous finalement? Jésus leur dit encore et poursuit. Je vais partir. Vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez aller où je vais. Les Juifs se disaient, va-t-il se suicider, puisqu'il dit, vous ne pouvez aller là où je vais. Alors, réfléchissons à ce qui se passe. Jésus dit, je vais partir et vous me chercherez. Il commence maintenant un discours prophétique, car ça évoque sa mort sur la croix. Ça évoque aussi sa résurrection et ça évoque sa glorification quand il répand le Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus continue dans le livre des Actes. Rappelons-nous que les pharisiens ont beau essayer d'arrêter. Ils ont beau chercher Jésus. En fait, ils avaient très peur, finalement, tellement peur qu'ils ont envoyé des gardes pour garder le tombeau d'un mort. Je vais partir. Vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas aller où je vais. Pourquoi ne pouvait-il pas y aller? Parce qu'ils allaient mourir dans le péché. Lui, il va à la droite du Père, donc au ciel. Eux, s'ils continuent, ils vont en enfer. S'ils continuent. En fait, il est important de savoir que Jésus aime les pharisiens. Et c'est très important de se rappeler de ceci parce que, en fait, nous voyons les pharisiens comme les grands méchants. Et oui, ils sont les grands méchants. Mais attention, nous le sommes aussi, les grands méchants. En fait, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Et justement, il a sauvé un grand pharisien méchant du nom de Saül de Tarse. Et donc, il était, on pourrait dire, dans le business de sauver les pharisiens. Il voulait sauver les pharisiens. Mais il faut que, maintenant, comme ils ont entré dans cette rage, ils ont perdu le bon sens. Il faut qu'ils disent quelque chose qui puisse les réveiller. Et donc, ils disent, vous risquez la condamnation éternelle si vous ne vous réveillez pas. Car si vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez pas aller au ciel. Autrement dit, que Jésus-Christ est le seul chemin. C'est lui qui le dit. Il n'y a pas un autre chemin. On ne peut pas être né dans la religion, dans n'importe quelle religion, et aller au ciel si on a bien fait dans sa vie. Non, il faut être né de nouveau. Et ça se fait seulement par la croix. C'est le seul moyen d'aller au ciel. C'est Jésus qui le dit. Sinon, on meurt dans nos péchés. Et la condamnation est assez évidente, est assez dure. Et c'est pour ça qu'il veut les sauver. Mais comme pour prouver ce qu'il a dit, il juge par des standards humains. Et il commence à parler de suicide ou d'autres choses. Jésus leur répond, dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Donc vous êtes de ce monde. Vous êtes pécheurs, moi je suis d'en haut. Je viens du ciel. Vous appartenez à ce monde, mais moi je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Notez-le bien. Ce n'est pas comme il dit, vous êtes prédestinés à aller en enfer. Tout ce passage, en fait, renverse cette mauvaise doctrine. Parce que Jésus leur donne la capacité et la possibilité, en fait, la possibilité de changer d'avis, de se repentir. Il a utilisé la loi, ils sont convaincus de leur propre péché, mais ils insistent. Et il leur avertit de ce qui va aller finalement s'ils ne se tournent pas. S'ils ne les aimaient pas, il n'aurait pas pris le temps avec eux. Mais il leur donne chance après chance pour changer, pour tourner vers lui. Ce n'est pas une prédestination à l'enfer, car ça n'existe pas. L'enfer était créé pour Satan et les démons. Mais, malheureusement, si l'homme refuse Christ, il peut choisir l'enfer. Et je mets l'accent vraiment sur le mot « choisir ». Voilà le libre choix. On peut choisir l'enfer, comme on peut choisir d'y échapper aussi, en allant avec Christ, le seul source de salut. Et apparemment, ils ont compris. Verset 25. « Mais qui es-tu ? » lui demandèrent-ils. Jésus leur répondit, « Celui que je vous ai dit depuis le commencement. » On peut imaginer lui aussi sa frustration. « Mais pourquoi vous me demandez ça ? » Il n'a rien caché, mais il le dit, il le redit. « J'ai beaucoup à dire et à juger à votre sujet, mais j'annonce au monde seulement ce que j'ai appris de celui qui m'a envoyé. » Et lui, il m'a dit la vérité. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Et Jésus leur dit alors, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis qui je suis, vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même, je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. » Parce que ils voyaient que ces pharisiens, ils ont perdu vraiment la bataille. Et les gens, ils remarquent, ils voient, ils comprennent, ils ressentent le Saint-Esprit. Ils croient. Mais regardez ce que Jésus a dit. C'est puissant. Et c'est terrible à la fois. J'aime bien cette traduction en français courant parce qu'ils ont bien dit exactement comme c'est en grec, en fait. Quand vous élevez le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis. C'est ça ce qui est écrit. mais ils ajoutent « je suis qui je suis » parce que Jésus fait référence à cette rencontre merveilleuse entre Moïse et la puissance ardente quand Dieu se révèle en tant que « je suis qui je suis ». Mais comment est-ce qu'ils vont le reconnaître quand ils s'inclinent devant lui dans sa majesté? Non, ils vont le reconnaître quand ils le crucifient. Et ça nous donne une perspective intéressante. C'est-à-dire que les pharisiens, quand ils ont finalement cloué Jésus, ou ils ont, c'est pas eux, en fait, c'est les Romains qui l'ont cloué, mais ils sont arrivés à convaincre Pilate. Ils l'ont vu. Rappelons-nous, ils étaient là pendant tout. Ils se moquaient de lui. Jusqu'à ce que la terre tremble. Jusqu'à ce que le jour devient nuit. Jusqu'à ce que Jésus crie et il cite le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et eux, ils étaient, je crois, frappés. S'il y avait des gens qui pourraient être au courant du fait que le voile se déchire du haut en bas à sa mort, c'était bien eux. Et ça, c'est pourquoi ils perdent même pas le temps à arrêter Joseph d'Arimathée et Nicodème qui se lèvent pour enterrer Jésus. Mais ils vont direct à Pilate pour assurer qu'il y a une garde pour ce tombeau. Ces hommes avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils réalisaient que c'est vrai. Pourtant, parce qu'ils étaient si endurcis contre la vérité, parce, à cause de leurs préjugés, à cause de leur haine, ils ont été aussi aveuglés. Donc ils le savaient, mais ils étaient aveuglés à la fois. Ils se mentaient à eux-mêmes et à tout le monde. Donc ce qu'ils ont fait était du bluff. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. » Et là, on attend qu'ils disent plus. Parce que déjà, c'est tellement profond ce qu'il dit là. On a l'impression qu'il va parler encore. Mais non! Ces pharisiens, ils le poursuivent encore. Ils l'interrompent en mi-phrase. Et lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham. » On peut très bien imaginer Jésus qui dit, « Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'avais plein de choses à vous dire, mais je ne peux pas maintenant, il faut que je réponde à ces gens-là. » Mais il le fait. Et il le fait par amour. Si c'était moi, ce serait avec une je pense que j'aurais continué, franchement, si c'était moi. Mais comme Jésus est parfait, il n'est pas pécheur comme moi, ben il répond à ces gens. Il essaie de les gagner. Et ce qui est triste, c'est que leurs arguments deviennent de plus en plus faibles. De moins en moins basés sur la réalité. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libre? C'est marrant. Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est marrant, hein? C'est comme ils ont oublié ce qui s'est passé il y a 10 minutes quand ils ont conçu cette belle idée d'amener cette femme à Jésus parce que ils n'ont pas le droit de l'exécuter parce qu'ils sont esclaves à Rome. C'est comme ils ont oublié la signification de la fête des tabernacles parce qu'ils étaient les esclaves d'Égypte. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé en Babylone? On part des plus intelligents hommes du pays, mais qui sont aveuglés par leurs préjugés, par leur haine. Jésus leur répondit. Il les répond. C'est merveilleux, le Seigneur. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Il les répond. Oui, je vous le déclare. C'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le fils vous rend libre, vous serez alors vraiment libre. Et profitons même, au moins pour continuer l'enseignement, pour ceux qui sont prêts pour écouter. Et ce qu'il dit est vrai, surtout pour eux. Il devient maintenant l'exemple. Parce que, quel était leur péché? Bon, certes, certains, ils ont commis adultère. Peut-être qu'il y avait justement l'adultère qui était avec la femme, là, dans la foule. Mais, il ne parle pas de ça. Il parle de leur endurcissement, leur refus de croire. Et finalement, ils s'enchaînent et deviennent le prisonnier de leur incrédulité. Et ça, c'est un des grands tragédies de ceux qui refusent de croire. Parce que si on ne peut pas faire confiance à Dieu, on ne ferait jamais confiance à l'homme. Et on finit ses jours dans le cynisme total. On ne peut pas avoir de vraies relations de confiance avec les hommes parce qu'on est finalement dans un état de séparation avec la seule personne qui est digne de confiance. Ou bien, on finit ses jours en pleine déception et amertume parce que toute notre confiance a été déçue. Et même la confiance qu'on a mise en nous-mêmes a été déçue. C'est un esclavage. Le péché d'incrédulité, alors qu'il voulait les rendre libres. Libres. Et c'est ça ce que nous sommes. Nous étions tous esclaves du péché avant. Mais quand Jésus-Christ nous a rachetés, quand nous nous sommes inclinés devant sa croix, quand il nous a justifiés, nous sommes devenus les enfants de Dieu. L'autre jour, on était à table, on faisait un petit party avec Ellie et les filles plaisantaient avec elle parce qu'il paraît, je ne savais pas, qu'il y a de la royauté en Australie. Bon. Et donc, on se plaisantait des choses qu'on dit, qu'on ne dit pas quand on est royauté et tout. Mais justement, quand on est royauté, ça régit la façon dont on se comporte, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Mais nous sommes de royauté, des enfants adoptifs, mais des enfants du roi des rois. Et donc si nous sommes des enfants du roi des rois, ça doit régir la façon dont nous nous comportons dans ce monde. Attention, ça ne veut pas dire que nous tombons dans le légalisme, parce que le légalisme est un péché et c'est un esclavage, le légalisme. Qu'est-ce que c'est légalisme? Légalisme, c'est tout simplement de prendre, et c'est souvent motivé par la peur de tomber, la peur de ne pas y arriver, la peur aussi des autres, mais c'est toujours la peur, et on se protège en retournant à la loi. Et ce qui est vraiment le plus dangereux avec le légalisme, c'est qu'on s'étouffe et on projette notre image tordue de la loi et la grâce sur les autres. Et ça empoisonne la relation des autres. Pourtant, si nous sommes en Christ, nous avons le commandement d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Et même si nous sommes nés de nouveau, il y a toujours la possibilité de retomber dans le péché. Et ça, c'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Surtout les choses qui nous ont enchaînés avant Christ peuvent toujours nous attirer et nous diriger vers un nouvel esclavage. Mais ce que Paul dit en Romains 6 est à garder à cœur, que nous sommes en fait libérés par le sang de Christ pour ne plus pécher, pour ne plus servir cet ancien maître. En fait, verset 12 de chapitre 6, le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier à son service comme les instruments de ce qui est juste. C'est-à-dire, si vous étiez tenté avant par le vol, évitez-le comme la plaie. Si vous étiez tenté avant par l'immoralité, évitez-le à tout prix. Si c'était le pouvoir et l'argent avant, même chose. Faites très attention. Pas dans la peur, mais parce que vous êtes un fils ou une fille de Christ. Alors, c'est l'heure de se comporter en tant que tel. Parce que c'est là où il y a la vie. Et je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, Jésus dit. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous refusez mes paroles. Moi, je parle de ce que mon père m'a montré. Mais vous, vous faites ce que votre père vous a dit. Il réplique. Notre père, c'est Abraham. Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous ferez les actions qu'il a faites. Mais maintenant, bien que je vous ai dit la vérité et que je l'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a rien fait de semblable. Vous faites les mêmes actions que votre père. Et lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père et c'est Dieu. Et là, ils attaquent bien sûr ses origines. Fait que Marie se trouvait enceinte. Et donc, ce qu'il dit, c'est que c'est fort. Vous vous dites, les enfants d'Abraham, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a quand même quitté son pays, sa famille, pour suivre Dieu. Abraham était prêt même à sacrifier son propre enfant pour suivre Dieu. Mais eux, ils sont prêts à tuer Dieu pour gagner sa place. Alors, qui est donc leur père? Verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu, et je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi vous comprenez pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables d'écouter mes paroles. Vous avez pour père le diable. » Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché? Et si je vous dis la vérité, pourquoi vous ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous n'êtes pas de Dieu et c'est pourquoi vous ne l'écoutez pas. Dit que finalement, vous êtes des enfants du diable, parce qu'ils font pareil au diable. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu la place de Dieu, même malgré sa beauté et sa perfection de son être. Eux, il s'incarne dans le parabole des mauvais vignerons dans Matthieu 22, où ces ouvriers dans la vigne, ils prennent l'autorité, ils tuent le fils pour pouvoir capturer et avoir pour leur propriété la vigne. C'est ce que voulaient ces gens-là. Il préférait la gloire des hommes au-dessus de la gloire de Dieu. Ce n'est pas comme, c'est seulement les pharisiens qui se comportent comme ça. Nous voyons ces caractéristiques sataniques partout dans le monde. Les gens qui veulent supprimer Christ et qu'il veut supprimer la possibilité que les autres croient font pareil. Les Juifs répondirent à Jésus, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es possédé d'un esprit mauvais ?» Là, c'est l'insulte tout simple. Ils savent que Nazareth, c'est Nazareth, et la Samarie, c'est la Samarie. Ça n'a rien à voir. Là, il insulte tout simplement. Il se moque de ce qu'ils ne comprennent pas. Jésus ne répond même pas à cette insulte. Et c'est bien parce que s'il l'aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Et ça aurait minimisé la grande œuvre qu'il a faite en Samarie. En disant, non, je ne suis pas un Samaritaine, comme si c'était honteux. Non. Mais il répond à cette question, non, je ne suis pas possédé, répondit Jésus. Mais j'honore mon Père. Et vous, vous refusez de m'honorer. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Il en est un qui la cherche pour moi et qui juge. Donc il parle du Père. C'est le Père qui cherche la gloire pour son Fils. Oui, je vous le déclare et c'est la vérité. Celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Alors là, les Juifs, ils pensent l'avoir et lui dire, maintenant nous sommes sûrs que tu es possédé d'un esprit mauvais. Abraham est mort, les prophètes sont morts, et toi tu dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Abraham, notre père, est mort. Penses-tu être plus grand que lui? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire ne vaudrait rien. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Vous dites-lui, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à ses paroles. Abraham, votre père, s'est réjoui à penser de voir mon jour. Il a vu et en est été heureux. Les Juifs lui dirent, tu n'as encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus lui répondit, oui, je vous le déclare. C'est la vérité, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et là encore, ils ont bien compris. Mais cette fois-ci, ils n'ont plus rien à dire. Là, ils ramassèrent alors des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Encore, homme, il y avait la possibilité qu'il meure. Mais miraculeusement, surnaturellement, il se cache, même au plein milieu du temple. Est-ce que c'était comme Lot, où les anges ont frappé d'aveuglement? Ou est-ce que c'est en Luc, quand Jésus passe miraculeusement au travers de la foule? On ne sait pas. Ou peut-être il s'est enfui, il s'est caché, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, dit avant Abraham, je suis. Comment est-ce que Abraham a vu les jours de Jésus? Il y a plusieurs possibilités. À la naissance d'Isaac, il a vu la promesse. Une promesse future qui conduira au sauveur du monde. Il a vu comme ça. Ou bien, il a vu aussi quand les anges sont venus chez lui pour prophétiser l'ange du Seigneur, prophétiser sur la naissance d'Isaac. Et quand Abraham a essayé de calmer, entre guillemets, la colère du Seigneur contre Sodome et Gomorre. D'autres pensent que c'est peut-être Melchizedek, mais le livre, l'Épître aux Hébreux, dit que ce sont des images. Donc je ne pense pas, mais c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, Abraham s'en est réjoui à la pensée même de voir Jésus. Et comme il est vivant, il a vu finalement. Alors, on termine avec ceci. Jésus disait, moi je connais le Père, mais si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Et ça c'est troublant. Parce qu'ils disent que si il avait dit pour qu'il soit plus à l'aise en disant oh, bon, ouais, je connais un peu, je connais pas, enfin oui, ou s'il a gardé le silence, alors que il avait plein de connaissances du Père, il ment. Et c'est du péché, aussi grave que la leur, il dit. Et je le relève parce que nous le faisons tous. Quand nous ne disons pas, dans ces moments préparés d'avance par le Père, et nous hésitons et nous ne le disons pas, c'est du péché. Nous mentons contre la vérité. C'est Jésus qui le dit. Alors je le relève pour que nous ne le faisons plus. Il faut l'arrêter. Nous sommes tous coupables. Donc je ne vais pas jeter la première pierre. Mais que par la grâce du Seigneur, nous avançons. Et